ma connaissance, durant les deux décennies depuis la mise sur pied de l'Église du Dieu vivant, notre site web du Monde de demain n'a jamais diffusé une émission à propos de la dîme. Nous avons cependant un cours d'études bibliques sur le sujet, à savoir la leçon 17, et nous avons aussi un tableau blanc sur le même sujet, la dîme garantie de notre paix d'esprit sur le plan financier. Mais, à nouveau, nous n'avons pas produit d'émission télévisée sur le sujet. La raison devrait être évidente. Tout notre matériel est distribué gratuitement et, j'ajouterai, sans aucune forme de pression. Alors que certains organismes, certains individus, certaines organisations à but non lucratif peuvent donner des choses gratuitement, ils vont néanmoins vous inciter à donner. Je suis sûr que nous avons tous connu des moments où, après être entrés dans un magasin d'alimentation, lorsque nous passions à la caisse, une personne nous a demandé « Voulez-vous donner un dollar à tel ou tel organisme ?» Vu que la demande nous est formulée de personne à personne, allons-nous alors opposer un refus ? C'est gênant, n'est-ce pas ? Ne va-t-on pas alors se sentir obligé de le faire ? Le sachant, nous ne voudrons donc pas, nous non plus, que les gens se sentent obligés de nous faire un don. Après tout, Christ ne dit-il pas dans Matthieu chapitre 10 verset 8 « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Nous allons donc respecter ce principe. J'imagine que nous sommes conscients du fait que notre façon d'opérer est différente de celle des autres organismes. Ainsi, même certaines églises de Dieu ont commencé à solliciter des dons pour ce qu'elles offrent. Pas toutes, bien sûr, mais certaines l'ont fait. Je connais l'une des plus importantes d'entre elles, et j'ai été assez choqué qu'elles le fassent. Et puis, parmi ceux qui ont créé leurs propres églises, il y en a même qui vont jusqu'à faire pression sur les gens pour qu'on leur lègue maison et économie par testament. Nous n'agissons pas ainsi, évidemment. Ceux qui se rapprochent le plus de ce que l'on pourrait appeler une sollicitation pour des dons, c'est ce qui apparaît sur nos sites web, où nous aurons à un certain endroit un bouton avec la mention « Faire un don ». C'est qu'il y a toujours des gens qui aimeraient faire un don et qui se demandent alors comment le faire. Mais, comme une ou deux personnes peuvent en témoigner, j'ai toujours insisté pour que ce bouton, sur lequel on peut appuyer pour faire un don, soit aussi discret que possible. Il va généralement être placé à côté d'autres boutons, de sorte à être là si quelqu'un le cherchait. Nous ne le ferons pas clignoter pour attirer l'attention. Nous n'agirons pas ainsi. Nous agirons de manière réfléchie et avec prudence, sachant que des personnes sincères veulent parfois faire un don, et nos sites web leur offriront alors des liens à cet effet. Cela dit, ne soyons pas plus restrictifs dans ce domaine que Dieu ne le saura. Par exemple, dans Actes chapitre 20, l'apôtre Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Il leur parle de sa première rencontre avec eux et de la première fois qu'il leur a prêché l'Évangile. Voyons-le. Actes chapitre 20, versets 18 à 21. Actes chapitre 20, versets 18 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Entre parenthèses, il ne se rendit pas à Éphèse à cette occasion-là. Il les invita plutôt à venir le rencontrer en un certain lieu. À nouveau, « Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a enseigné donc publiquement, mais aussi en privé de maison en maison, tout ce qui pouvait leur être utile. Mais qu'est-ce que la repentance envers Dieu ? Allons à Actes chapitre 20, au verset 27. Actes chapitre 20, verset 27. « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Paul a dit « Je n'ai pas hésité à vous l'annoncer ». Alors, que comprend tout le conseil de Dieu? Examinons quelques-unes des choses que Paul leur a enseignées. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 19, un verset bien connu de plusieurs d'entre vous, il est dit, 1 Corinthiens 7, verset 19, « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'apôtre Paul n'a pas supprimé la loi de Dieu. D'ailleurs, il n'aurait pas pu le faire de toute façon, car l'homme n'a pas la capacité de supprimer la loi de Dieu. Malgré tout, certains pensent qu'il nous a dit que nous n'avions plus à observer la loi. Pourtant, il dit ici, « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais ce qui compte, c'est d'observer les commandements de Dieu. » Et puis dans Romains chapitre 7, verset 7, il ajoute, Romains 7, verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». La loi dont il parle ici est donc manifestement celle des 10 commandements. Mais le commandement spécifique qu'il mentionne ici est « Tu ne convoiteras pas ». La convoitise a beaucoup à voir avec l'argent, mais aussi avec d'autres choses. Ainsi, il pourrait aussi s'agir de convoitise sexuelle, par exemple, ainsi que d'un certain nombre d'autres choses qui impliqueraient la convoitise. Et Paul d'ajouter « Je ne l'aurais pas su si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Puis dans Romains 7, verset 12, Paul conclut en disant « La loi est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon ». Paul n'était donc pas opposé à la loi de Dieu. Qu'est-ce qui est encore contenu dans la loi de Dieu? Paul a mentionné la convoitise, mais voyons Exode chapitre 20, où sont énoncés les 10 commandements. Il est vrai qu'ils sont également mentionnés dans Deutéronome 5, mais nous nous concentrerons ici sur Exode chapitre 20. Par exemple, dans Exode chapitre 20, au verset 15, il est dit, Exode 20, verset 15, « Tu ne déroberas point. » C'est clair et ne nécessite pas d'autres explications. Il est clair que Paul a enseigné qu'il ne faut pas voler nos voisins. Revenons brièvement à Romains chapitre 13, verset 8, où il dit, Romains 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Il a donc dit, « Ne devez rien à personne. » Demandons-nous alors, « Devons-nous quelque chose à Dieu ?» C'est que le verset 8 se contentait de dire qu'il nous faut aimer notre prochain. Cela n'est donc pas abrogé, mais poursuivons notre lecture. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ceux qu'il peut encore y avoir, comme tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien sûr, tout cela ne supprime pas la loi, comme nous l'avons déjà vu. Cela ne fait que résumer ce que cela implique, que d'aimer son prochain comme soi-même. Mais nous savons aussi que Christ a été interrogé sur le commandement le plus important de la loi. Rendons-nous à Matthieu chapitre 22, où un pharisien lui avait demandé, Matthieu 22, versets 36 à 40, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ?» de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le second est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur ces deux commandements que repose toute la loi et tous les prophètes. Ainsi, lorsque Paul disait que tout cela est résumé dans cette déclaration « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne se concentrait en fait que sur la seconde moitié des 10 commandements. Mais il est très clair qu'il y a deux lois. L'une consiste à aimer Dieu, l'autre consiste à aimer son prochain. On pourrait dire que c'est un résumé de la loi en général. Tournons-nous aussi vers Éphésiens chapitre 4, verset 28, où se trouve un énoncé qui s'adresse bien sûr à un individu converti. Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y avait donc des individus qui étaient jadis des voleurs, avant que Dieu ne les appelle à son Église. Et je pense que si nous considérons l'esprit de la loi, nous nous sommes probablement tous rendus coupables de vol à un moment ou à un autre. Ainsi, je me souviens qu'étant jeune, j'aimais un certain type de gomme à effacer. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi nous qui savent de quoi je veux parler. Ces gommes étaient destinées à des travaux très délicats. Ce n'était pas le genre de gomme dure que nous utilisions communément à l'école. J'ai toujours aimé toucher ce type de gomme à effacer, au point d'en devenir un voleur invétéré. J'avoue en avoir volé une dans un magasin. Je me souviens aussi d'avoir volé une petite pièce de monnaie chez un de nos amis dont le père avait coutume de laisser traîner du change dans sa maison. J'avais probablement 8 ou 9 ans à l'époque, le même âge que lors de l'incident de la gomme à effacer. Cela dit, d'autres ont l'habitude de frauder le fisc, et il y a quantité d'autres façons de voler. Mais ici, dans Éphésiens 4, verset 28, il est dit à ceux qui ont volé, « Ne volez plus, mais travaillez plutôt, en faisant de vos mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » En d'autres termes, non seulement il ne faut pas voler, mais nous nous faisons dire ici que nous devrions travailler. Oui, travailler pour faire du bien à autrui, et pas seulement à nous-mêmes. Permettez-moi de vous poser une question très simple. Qu'est-ce qui constituerait le plus grand péché? Voler son voisin ou voler son Créateur? Nous devons réfléchir à cette question, car trop souvent, les gens considèrent que voler Dieu est un point plutôt mineur, parce que, diront-ils, Dieu comprendra, oui, il comprend ma situation. Pourquoi les gens pensent-ils qu'il est moins important de respecter Dieu que le propriétaire de notre maison? Serait-ce parce que nous avons tendance à créer Dieu à notre image, alors que nous ne pouvons pas le faire avec notre voisin? Il est un fait que nous ne pouvons pas faire cela avec notre propriétaire, parce qu'il viendrait frapper à notre porte, tandis que Dieu n'agirait pas d'une manière aussi directe. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais donc parler de l'importance de la loi à propos de la dîme, et si vous voulez un titre, le voici. Un homme va-t-il voler Dieu? La dîme était devenue un sujet brûlant sur le forum CompuServe. Je ne pense pas que ce forum existe encore aujourd'hui, mais il y a 25 à 30 ans, lorsque beaucoup d'entre nous furent contraints de quitter l'Église universelle qui s'égarait, ils se mirent à consulter le forum CompuServe, ainsi que d'autres forums, et la dîme constituait alors un sujet brûlant. Certains pensaient qu'il n'était pas nécessaire de payer la dîme, qu'il suffisait de faire des dons de charité et de donner à Dieu ce que l'on déciderait de lui donner. Je ne sais pas si quelqu'un a jamais été influencé par ce qui se disait sur ce forum. On m'avait encouragé à y prendre part pendant au moins un certain temps, et je l'ai fait. Cependant, après plusieurs mois, j'ai réalisé que cela ne donnait pas grand-chose. Vous pouviez vous en absenter durant 6 mois et constater à votre retour que rien n'avait vraiment évolué entre-temps. Oh, parfois de nouveaux intervenants allaient s'ajouter, mais pour ce qui était des anciens, ils restaient cantonnés dans leur position et continuaient de se disputer sur les mêmes doctrines qu'auparavant. Tout cela me semblait plutôt futile, mais c'était là un sujet brûlant. S'il est vrai que le sabbat est le commandement test pour le monde, pour certains membres de l'Église, c'est la dîme qui est le commandement test, car nombreux sont ceux qui observent le sabbat, mais sans pour autant être convaincus qu'il leur faut aussi payer la dîme. Je sais qu'il y a des gens à revenu fixe que nous pourrions considérer comme exemptés de la dîme. Je ne parle pas de ces cas particuliers. Je parle du fait que, malheureusement, dans l'Église de Dieu, certains n'ont pas fidèlement payé la dîme. Je trouve plutôt cocasse que tant de ministères et de religions qui rejettent habituellement tout ce qui se trouve dans l'Ancien Testament vont tout de même conserver le livre de Malachie, un livre où il est question de cette loi sur la dîme. Tournons-nous donc brièvement vers Malachie pour examiner certaines des choses qui s'y trouvent. Cela me rappelle cet individu qui participait au forum CompuServe et qui disait que le livre de Malachie s'adressait à des membres du clergé et non à des membres laïcs. Selon lui, il parlait de la dîme que les Lévites devaient verser au sacrificateur. C'était là son raisonnement. Il avait même ajouté « Quelqu'un qui a de l'intelligence devrait être capable de comprendre cela. » Je lui ai alors répondu en citant Malachie chapitre 1, verset 1, où il est dit clairement « Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. » Ce n'est donc pas seulement aux Lévites et aux sacrificateurs que cela est adressé, mais à l'ensemble de la nation. En ce qui concerne Malachie chapitre 2, je ne lirai pas tout, mais nous voyons qu'il s'agissait ici d'individus cyniques, contestataires et récalcitrants qui étaient issus d'une nation rebelle. Pour mieux le comprendre, il nous faudra remonter dans le temps jusqu'à l'époque où Juda sortait de la captivité. C'était l'époque des prophètes Haggai et Zacharie. Les Juifs avaient commencé à bâtir le temple, mais sans toutefois l'achever. Alors Haggai et Zacharie avaient incité le peuple à en poursuivre la construction. Par exemple, lorsque vous lisez Haggai, vous le voyez qui les encourage en ce sens, disant, Haggai 2, verset 7, « J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Puis au verset 9, « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Puis, bien des années plus tard, voilà qu'apparaît Malachie, alors qu'on pensait que toutes ces prophéties avaient échoué. Certains disaient déjà, « À quoi bon servir Dieu ?» Ceux qui raisonnaient ainsi ne comprenaient pas qu'il devait s'écouler un intervalle de temps entre leur époque et celle de la venue du Messie, que cela faisait allusion à une époque future, où le Christ viendrait, dans ce dernier temple, un temple dont la gloire serait bien plus grande que toute la gloire que Salomon avait pu lui donner de son temps. Cette venue du Messie dans ce temple ferait même l'objet d'une dualité, mais tout cela, les gens ne le comprenaient pas. Haggai avait dit, « La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première. » Mais comme ils ne le voyaient pas, ils étaient devenus cyniques. Le temps avait passé, tous leurs problèmes n'avaient pas été résolus, et c'est pourquoi ils se disputaient entre eux et étaient devenus cyniques. Pas étonnant donc que nous lisons alors dans Malachie chapitre 2 verset 17, Malachie 2 verset 17, « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué ? » C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien, « Où est le Dieu de la justice ?» Quand vous parcourez le livre de Malachie, vous constatez qu'il ne cesse d'argumenter avec Dieu. Quel que soit le sujet abordé, ils ont toujours quelque chose à redire, toujours une question cynique à formuler en retour. À nouveau, En quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir. Oui, les gens font le mal, et ils sont bénis, mais pas nous. D'où leur questionnement, où est le Dieu de la justice? Mais venons-en à la partie qui est souvent citée ici à ce propos. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On le voit ici qui critique le peuple. Il critique également les sacrificateurs pour ne pas avoir enseigné certaines choses et ne pas avoir respecté les normes. Poursuivons, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Là encore, notez leur attitude. Ils disent, de quoi parles-tu? Nous ne comprenons pas ce que tu veux dire. Venons-en finalement à Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, notez à nouveau leur manie de toujours vouloir répliquer, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Réponse, dans les dîmes et les offrandes. Il s'agit là d'une déclaration très claire, selon laquelle ne pas payer sa dîme à Dieu, c'est du vol. Encore une fois, je pose la question, qu'est-ce qui est le plus crucial? Qu'est-ce qui est le plus grave? Est-ce voler son prochain? Ou est-ce voler le Dieu qui nous a donné tout ce que nous avons, y compris l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, notre nourriture, nos vêtements, nos demeures, etc. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Notez qu'il ne s'adresse pas ici seulement aux Lévites et aux sacrificateurs. Non, toute la nation est sous le coup de la malédiction. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. Certains pensent qu'il faudrait plutôt dire ici que Dieu nous bénira alors suffisamment. Lorsqu'ils apporteraient la dîme dans leur grenier, dîme qui se composait surtout de céréales et de produits agricoles, il n'y aurait donc pas assez de place pour la recevoir. Cela veut-il dire que Dieu va nous bénir et faire de nous des millionnaires parce que nous payons la dîme? Je pense que c'est parfois l'impression que nous donnons aux gens. Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que Dieu va alors subvenir à nos besoins. Il va prendre soin de nous. Il ne faut pas penser que Dieu va littéralement ouvrir les fenêtres du ciel et déverser sur nous des bénédictions financières qu'il nous serait impossible d'imaginer. Je suis persuadé qu'il y en a dans cette salle qui paient fidèlement leurs dîmes, et que cela n'est pas toujours facile, surtout avec l'inflation qui sévit dans notre pays. D'ailleurs, si nous pensons que c'est grave ici, sachez que c'est bien pire ailleurs. Ainsi, je discutais hier avec un homme qui me disait qu'en Angleterre, le prix de l'essence était monté à un moment donné à 8 livres sterling le gallon US. À noter cependant que le prix va varier beaucoup en fonction du temps et du lieu, même à l'intérieur d'un même pays. Ainsi, fin novembre 2023, toujours en Angleterre, on devait payer en moyenne 5,72 livres sterling pour le gallon US. Cela revient à environ 1,88 $ US par litre, ou 2,57 $ canadiens par litre, ou encore 1,72 € par litre. Lorsque je vivais là-bas dans les années 50, la livre sterling valait environ 2,8 $ US. Sa valeur a beaucoup baissé et se situe actuellement à environ 1,25 $ US. Alors je vous pose la question, aimeriez-vous payer 2,57 $ canadiens par litre ou 1,72 € par litre? Et vous savez, il y a des endroits dans le monde qui souffrent d'une inflation encore bien plus importante que la nôtre, ainsi que d'autres problèmes. Bien sûr, cela ne vous sera pas d'un grand secours, surtout si vous avez de la difficulté à payer votre dîme. Notez cependant ce que Dieu promet à ceux qui le font. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il y a donc ici une promesse que Dieu va arranger les choses pour nous. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, notre dette s'élève à environ 32 000 milliards de dollars. Et encore, cela ne tient même pas compte de nos dettes personnelles, car il ne s'agit ici que de la dette du gouvernement, de la dette fédérale, et je ne suis même pas sûr que cela comprenne la dette de nos divers États. Mais si nous considérons notre monde actuel, il y a de quoi paniquer, car ce n'est pas seulement ici, aux États-Unis, que notre endettement donne le vertige. Dans d'autres pays, ce n'est guère mieux, toute proportion gardée. Cela dit, Dieu dit qu'il nous bénira si nous faisons notre part. Oui, comme nous venons de le lire dans Malachie 3, verset 12, « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Hélas, nous n'avons pas, en tant que nation, payé notre dîme. Je comprends que cela puisse susciter des problèmes à certains qui se demanderont à qui la payer. Je comprends tout cela. Mais le fait est que notre peuple, dans l'ensemble, a peu de considération pour Dieu, peu de reconnaissance, et ne ressent pas le besoin de payer un loyer pour la terre qu'il possède. Évidemment, en parlant de nos peuples, je ne parle pas du peuple de Dieu. Selon certains, Matthieu 23 semblerait dire que la dîme n'existe plus. Soit dit en passant, je sais que l'écrasante majorité du peuple de Dieu est fidèle en ce qui concerne la dîme. Je sais que cela ne vous a pas toujours été facile. Surtout lorsque Dieu vous a appelé, que vous aviez peut-être déjà plusieurs enfants et que vous étiez déjà très serré dans votre budget. Oui, cela ne fut pas facile, mais vous y avez travaillé et Dieu vous a béni en conséquence. De fait, à ce que je sache, aucun parmi nous n'est un sans-abri. Je pense que les choses se sont arrangées avec le temps, même si ça n'a pas toujours été facile. Voyons maintenant Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. » Il parle de menthe, d'anis et de cumin, de toutes petites graines donc. Et il les comptait tout en séparant chaque dixième graine. Ce qui pouvait devenir très fastidieux à la longue. Poursuivons. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Cette phrase peut être interprétée de plusieurs façons, mais la plupart des gens l'interprètent comme signifiant ces choses, la justice, la miséricorde et la foi, vous auriez dû les pratiquer. En d'autres termes, vous ne les pratiquiez pas. Vous auriez dû les pratiquer sans négliger les autres. Quelle que soit la façon d'interpréter cette phrase, l'idée est que la dîme est toujours importante, mais que compter chaque petite graine ne revêt pas autant d'importance que la justice, la miséricorde et la foi. Comme nous le verrons, la foi est donc aussi très importante. Ainsi, Jésus n'a pas supprimé la dîme. Au contraire, il l'approuve, disant de ne pas la négliger. Il souligne cependant qu'il y a des choses plus importantes que la stricte observance de la dîme. Cela dit, rien n'empêche d'être généreux en la pratiquant, au lieu de s'en tenir qu'au strict minimum. Nous avons déjà vu dans Matthieu chapitre 22 comment un docteur de la loi lui avait posé cette question pour l'éprouver. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'où Jésus tenait-il cela? Et si l'Ancien Testament a été supprimé, pourquoi l'a-t-il cité? Jésus avait en effet cité Deutéronome chapitre 6 verset 5. Et vous pouvez noter à quel point c'est semblable à Matthieu chapitre 22 verset 37. Voyons-le. Deutéronome 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6 verset 5 dit donc de toute ta force. Quant à Jésus, il dit de toute ta pensée. Autrement dit, de tout ton être. Voilà donc le premier et le plus grand commandement. Tournons-nous à présent vers Deutéronome chapitre 10, verset 12, où il est dit, Deutéronome 10, versets 12 et 13, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? » Oui, qu'est-ce en fin de compte que Dieu attend de nous, de vous et de moi ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Notez que c'est pour notre bien. Oui, Dieu nous donne ses lois. Non pas pour nous punir, non pas pour nous rendre la vie difficile, mais pour notre bien. Et tous ceux parmi nous qui sont des parents peuvent comprendre cela. Vous établissez des règles et des lois dans votre foyer, non parce que vous voulez rendre la vie dure à vos enfants, mais parce que vous aimez vos enfants et que vous savez que certaines choses produiront de bons résultats, au contraire d'autres qui en produiront des mauvais. Ainsi, lorsque vous obligez Johnny à sortir et à arracher les mauvaises herbes du jardin, vous savez que cela lui sera plus profitable que de s'adonner à ses jeux vidéo qui ne seraient qu'une perte de temps. De même, lorsque vous lui dites de ne pas sortir après une certaine heure de la nuit, c'est parce que vous savez que rien de bon ne se produit après une certaine heure. Or, vous voulez qu'il revienne sain et sauf, parce que vous l'aimez. Ce sera pareil pour votre fille. Dieu nous aime tous. Oui, comme on l'a vu précédemment, tout ce que Dieu nous prescrit, c'est pour notre bien. Il a notre bien à cœur. Deutéronome 10, verset 14. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et ce qu'elle renferme. Pensez-y, quand nous prions, combien de fois pensons-nous à cet univers que Dieu a créé? Et puis, nous avons cette belle terre sur laquelle nous vivons. Nous avons souvent de si belles journées, même si certaines sont parfois plus difficiles. Mais nous passons des jours merveilleux et sommes entourés d'une si grande variété de choses. Nous avons des aliments de toutes sortes. Nous avons des noix, des fruits, des légumes et toutes sortes de viandes. Il y a tant de choses sur cette terre. Dieu nous fournit toutes ces choses. Il fournit aussi de la nourriture aux animaux, aux oiseaux et même aux insectes. Ils ont chacun leur propre nourriture et tout cela fonctionne en parfaite harmonie. Bon, voilà pour la terre. Mais qu'en est-il de l'univers, notamment du système solaire, et tout particulièrement du soleil? Ce soleil qui est juste à la bonne distance, et que Dieu a placé dans le ciel pour nous éclairer, nous réchauffer et faire pousser nos plantes. Entre parenthèses, je n'ai jamais compris cet engouement qu'ont les gens pour les bains de soleil. Ils vont à la plage et se mettent de la crème solaire, ils s'en mettent sur le ventre, sur les bras, etc. Puis ils vont s'étendre et se laissent griller. Je n'ai jamais vraiment compris cela. Mais les gens le font. Ils adorent ça. Bon, si c'est là leur dada, que cela fasse leur bonheur. Dieu nous donne donc toutes ces choses. Par exemple, la lune est juste à la bonne distance de la terre. Et cela nous donne des marées qui ne sont ni trop fortes ni trop faibles. Que de choses merveilleuses. Et puis, il y a ceux qui vont s'intéresser à notre galaxie et à l'endroit que nous occupons dans cette galaxie. Saviez-vous que si nous n'étions pas situés là où nous sommes, nous ne pourrions pas voir une aussi grande portion de l'univers lointain? Puis nous apprenons qu'il existe des milliards de galaxies contenant chacune des milliards d'étoiles. Quant aux confins de l'univers observable, selon notre connaissance actuelle, il se situerait à environ 13 milliards d'années-lumière, la distance que parcourrait la lumière en 13 milliards d'années. Inutile de dire qu'il nous est impossible de comprendre à quel point l'univers est grand. Pourtant, de son trône au troisième ciel, Dieu nous regarde et dit « Je veux faire de vous mes fils et mes filles. Je veux que vous viviez éternellement. Je vous ai créé dans ce but. » Lorsque nous pensons à ce que Dieu nous a donné, que pouvons-nous faire pour lui? Nous lui devons tout. Lorsque nous considérons des passages de l'Écriture, tels que Deutéronome 10, verset 14, où il est dit « Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » N'est-ce pas émouvant? Comment réagirons-nous alors en lisant Deutéronome chapitre 30, verset 6? Voyons-le, Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Dieu va donc circoncire notre cœur. Il va changer notre façon de penser dans cette vie. Ézéchiel chapitre 11 nous apprend comment Dieu va s'y prendre pour circoncire notre cœur. Voyons-le. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. Ézéchiel chapitre 11, verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Il est ici question de leur retour de captivité. Verset 18. C'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Versets 19 et 20. Je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Et pourquoi Dieu fait-il cela? Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Lisons aussi Deutéronome 5, verset 29. Deutéronome chapitre 5, verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Dieu va donc un jour donner à nos peuples un cœur nouveau. Mais Dieu nous donne à vous et à moi un cœur nouveau dès aujourd'hui, à condition que nous lui permettions de circoncire notre cœur, pour que nous changions et apprenions à lui obéir sans réticence, même si c'est difficile et que nous ne comprenons pas toujours pourquoi il faut le faire. Si l'on considère toutes les lois de Dieu, il y en aura qui nous sembleront difficiles à respecter, où l'on pourrait être tenté de faire quelque chose que l'on ne veut pas faire ou que l'on aurait tort de faire, qu'il s'agisse du sabbat ou de quelque autre commandement. Par exemple, même s'il est évident que nous n'avons pas le droit de tuer quelqu'un, il ne faut pas non plus le haïr, car ce serait l'attitude qui pourrait mener au meurtre. Il y a donc ici des commandements qui ne sont pas toujours faciles à respecter, mais Dieu nous appelle à un mode de vie différent, et nous devons apprendre à aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre être. Abraham est appelé le père des croyants. Voyons-le dans Romains chapitre 4, au verset 1 à 3. Romains chapitre 4, versets 1 à 3. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Cela dit, nous savons qu'il lui fut demandé d'offrir son fils en sacrifice. Pensez-y. Mais Abraham a simplement placé sa foi en Dieu. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il était prêt à le faire. Que ce soit de quitter sa patrie, de sacrifier son fils, ou peu importe. Tournons-nous maintenant vers Romains, chapitre 4, verset 16. Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, les Juifs avaient la loi codifiée, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Entre parenthèses, c'est de là que vient cette expression « Abraham, le père des croyants ». Oui, Abraham était une personne remarquable. Notons ce que Jean chapitre 8 dit à son sujet. Si vous commencez à examiner tous les personnages de la Bible, qu'il s'agisse de Noé, de Jacob ou de Joseph, vous allez vous rendre compte qu'Abraham se démarque nettement. Non pas que les autres n'aient point eu de mérite, mais Abraham, lui, se distingue d'une manière très spéciale. Jean, chapitre 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, verset 33, il pouvait parfois être bien cynique, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Sur ce, Jésus leur répondit, verset 34, « en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Puis au verset 37, il ajouta, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, physiquement parlant, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Voyez comment il réplique à cela au verset 39. Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Oui, il l'était physiquement, mais pas spirituellement. Voyez alors la réaction de Jésus à la fin du verset 39. Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Quand Jésus leur dit finalement, au verset 41, qu'ils faisaient les œuvres de leur père, c'était de Satan le diable qu'il parlait, comme en témoigne le verset 44. C'est intéressant qu'ils considéraient Abraham comme leur père. Abraham n'était pas seulement un homme de foi, mais aussi un homme d'obéissance. Notez-le dans Genèse chapitre 26. Ce qu'il faut de la foi pour être obéissant. Dans Genèse chapitre 26 verset 4, où il est question d'Isaac, nous lisons Genèse 26 verset 4. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Pourquoi? Pourquoi seront-ils tous bénis? Parce que, verset 5, « Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Cela inclut beaucoup de choses quand on y pense, pas seulement les commandements et les lois, mais aussi les statuts et les ordres que Dieu lui avait donnés en particulier. Si vous parliez de cela à certains de ceux qui se sont laissés entraîner dans l'apostasie de l'Église universelle, et que vous leur demandiez de quoi il est question ici, il est possible que ceux-ci répondraient alors que cela ne fait nullement mention du sabbat. Et pourtant, Dieu n'a-t-il pas institué et sanctifié le sabbat dès Genèse chapitre 2? Et puis, ceci pourrait aussi objecter qu'on ne parle pas ici de loi à propos d'animaux purs et impurs. Là encore, on pourrait leur mentionner que Noé avait fait entrer dans l'arche 7 couples de tous les animaux purs, mais seulement une paire de tous les animaux impurs. Il savait donc faire la différence. Par ailleurs, en ce qui concerne la loi sur la dîme, ils vont aussi renier qu'il y ait fait allusion dans Genèse chapitre 26, verset 5. Genèse chapitre 14, verset 14, mentionne également cet incident où Lot, le neveu d'Abraham, avait été capturé par des rois ennemis qui avaient envahi la région de Sodome où il habitait. Lorsqu'Abraham apprit la chose, il a tout de suite armé ses 318 soldats et serviteurs nés dans sa maison pour se lancer à la poursuite de ces individus qu'il poursuivit jusqu'à Dan. Genèse 14, verset 18, nous apprend ensuite ce qui s'est passé après la bataille, après qu'Abraham eut sauvé Lot et tous les ressortissants de ces villes conquises par les envahisseurs. Voyons-le. Genèse, chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna alors la dîme de tout. Genèse 14 ne dit pas grand-chose au sujet de ce Melchisédek, sinon qu'il bénit Abraham et que ce dernier lui donna alors la dîme de tout. En réalité, c'est au Dieu Très-Haut qu'Abraham donna sa dîme, la dîme de tout. Parlons-en. Certains vont dire que nous ne devons payer la dîme que sur les produits agricoles. Mais, si vous lisez la suite, vous verrez en fait qu'il s'agit de bien plus que cela. Mais, je ne prendrai pas le temps d'en dire davantage. Par contre, j'aimerais qu'on se rende maintenant à Hébreux chapitre 7. Il y a à nouveau question d'Abraham, du père des croyants, de celui qui avait donné la dîme de tout à Melchisédek, comme il est dit dans Genèse 14, verset 20. Hébreux 7, versets 1 et 2. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Versets 3 et 4. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Les gens ont toutes sortes d'idées sur l'identité de Melchisédek. Pourtant, il est clairement mentionné ici qu'il est un roi de justice, un roi de paix, et qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il y a des gens qui essaient de raisonner autour de cela et qui prétendent qu'il s'agit de Seth ou de quelque autre personne. À quel point Abraham était-il un personnage important? Eh bien, le nom Abraham est utilisé 61 fois dans les Écritures. Lorsque son nom a été changé en Abraham, il a été utilisé 251 fois de plus dans les Écritures. S'il est vrai que ces noms figurent dans les généalogies, ce n'est généralement pas le cas. Si l'on combine les noms Abraham et Abraham, on les trouvera 312 fois dans les Écritures. C'est tout de même significatif. Pourtant, même si Abraham était manifestement un personnage important, cela ne l'a pas empêché de donner la dîme à cet autre personnage important qu'était Melchisédek. Poursuivons notre lecture dans Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi, qui exercent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. C'était donc aux Lévites de prélever la dîme. C'est à eux que les gens devaient payer leur dîme. À leur tour, les Lévites devaient prendre un dixième de cette dîme qu'ils recevaient et la verser au sacrificateur. Les sacrificateurs recevaient donc un dixième de la dîme du peuple. Poursuivons, versets 6 et 7. Et lui, Melchizedek, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ainsi, peu importe qui était ce Melchizedek, il devait être quelqu'un de plus important qu'Abraham, ce qui exclut du même coup tous ces personnages que certains veulent nous proposer. Par ailleurs, toujours dans Hébreux chapitre 7, Paul mentionne que les Lévites eux-mêmes, par l'intermédiaire de leur ancêtre Abraham, donnaient la dîme à Melchizedek, qui est évidemment le plus grand des sacrificateurs. Il est clair que ce Melchizedek n'était nul autre que celui qui vint par la suite en la personne de Jésus-Christ. Le reste de ce chapitre montre comment la loi sur la dîme a dû être modifiée en ce sens qu'elle doit maintenant à nouveau être donnée au sacerdoce spirituel de Dieu, au véritable ministre de Jésus-Christ, comme c'était le cas à l'époque de Melchizedek, qui avait reçu la dîme d'Abraham. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, quand vous vous mettez à genoux et que vous priez, vous pensez à toutes les bénédictions que Dieu vous donne. Vous le remerciez pour la nourriture qu'il vous accorde, pour les vêtements que vous portez, ainsi que pour la maison qui vous abrite. J'ai déjà raconté cette histoire auparavant. Elle remonte à la 4e année de notre mariage. Quelqu'un nous avait donné une chaise qui était de bonne qualité, excepté que le rembourrage devait être refait. Il nous avait fallu pour cela économiser près de 90 $, ce qui nous avait pris plusieurs mois. Nous nous sommes alors mis à consulter des catalogues pour trouver le genre de tissu qui nous plairait. Nous nous demandions aussi si ce tissu allait harmoniser avec les rideaux. Et puis, comme nous venions d'acheter des lampes avec des coupons que nous avions reçus lors de notre mariage, nous nous demandions également si celle-ci allait convenir au genre de tissu que nous recherchions pour notre chaise. Que de questions! Un point en amenait un autre. Comme beaucoup de jeunes, nous voulions tout avoir. Quand je repense à cette époque et à ce que Dieu nous a donné depuis, je suis tout simplement stupéfait. Je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ressentent la même chose, en particulier ceux qui sont un peu plus âgés. Nous regardons en arrière et nous pensons à tout ce que Dieu nous a donné. Souvent, nous n'y étions pas pour grand-chose. Nous avions peut-être fait un petit héritage ou bénéficié d'une offre avantageuse au moment de la vente de notre maison, alors que le marché était favorable. À moins qu'à l'inverse, nous ayons pu acheter une maison à un prix sans pareil alors qu'on nous avait relocalisé ailleurs, dans une région où le marché était déprimé. Ces choses arrivent parfois, et nous avons vécu tout cela dans le passé, et toutes ces bénédictions, nous les devons à Dieu. Cela dit, nous ne donnons pas la dîme pour être bénis. Nous donnons la dîme parce que Dieu nous le demande. Nous donnons la dîme parce que nous aimons Dieu plus que tout. Psaume 24, verset 1 dit « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Oui, tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Psaume 50, verset 10 à 12 dit quant à lui « Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. » Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Dans Actes chapitre 17, au verset 28, lorsque Paul parlait aux Athéniens en leur faisant remarquer que les dieux qu'ils adorent ne sont rien. Il leur avait dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « De lui, nous sommes la race. » Oui, c'est en lui que nous vivons, que nous allons nous mouvoir et que nous existons. Dieu nous a donné tout ce qui est bon pour nous, et pour la plupart d'entre nous, il nous a donné bien plus que ce qui est nécessaire pour notre simple existence. Je sais qu'il y a des gens dans d'autres parties du monde qui vivent à peine, mais ce n'est pas le cas de la plupart d'entre nous dans ce pays, au Canada, au Royaume-Uni et dans bien d'autres pays. Et puis, dans Malachie chapitre 1, verset 14, nous lisons Malachie chapitre 1, verset 14 « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Ce n'était pas seulement les sacrificateurs qui étaient visés ici, mais tous les gens qui apportaient de tels sacrifices. D'ailleurs, offrir une bête chétive, n'est-ce pas contraire à la loi? Le nom de Dieu est donc à craindre. Il nous est ordonné d'aimer l'Éternel notre Dieu, et cela de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. L'une des façons de lui montrer notre amour est de le faire passer en premier et de lui payer un pourcentage raisonnable de 10% pour notre nourriture, notre logement, nos vêtements, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et tout ce que nous avons dans cette vie. De plus, n'est-ce pas lui qui nous offre aussi la vie éternelle? Soyons donc respectueux et reconnaissants de tout ce qu'il nous a donné. Je sais que c'est ce que font la plupart d'entre vous, j'en suis persuadé.